Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molina.
Le traité de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a été signé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais c'est quoi exactement EAC et quels sont les effets de l'adhésion de la RDC? Tentative de réponse dans ce journal. Explosion dans les camps Katindo de Goma jeudi dernier. L'Azado demande aux autorités provinciales de Goma d'interdire l'ouverture des débits de boissons dans des camps militaires. En effet, le règlement militaire n'autorise pas cet état des choses, dit le porte-parole de la police nationale, le colonel Piro Mwanaputu. Enfin, le gouvernement des États-Unis est engagé auprès de la RDC pour lutter contre le trafic illicite des minerais. C'est à ce titre que le gouvernement américain finance des projets pour la bonne gouvernance dans les secteurs miniers. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Patrick Pratt, chef adjoint de l'unité de l'Est au sein de l'ambassade des États-Unis en RDC. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, ces informations qui viennent de nous parvenir. Au Nord Kivu, les collines de Tchanzu et Runyoni ainsi que certaines localités du groupement Djomba sont aux mains des rebelles du M23 depuis la soirée de ce vendredi. Ce après avoir opposé une résistance au cours des violents affrontements avec les FARDC dans cette partie de Rutshuru. La société civile locale affirmait que les rebelles du M23 sont à Tchengerero et le trafic Rutshuru-Bunagana est à nouveau interrompu depuis la soirée. Pendant ces temps, les habitants de Bunagana se sont réfugiés en Ouganda en apprenant l'avancée du M23. Notre source affirme toutefois qu'une accalmie s'observe à Rutshuru centre et environ. Le porte-parole des opérations joint dans l'après-midi d'hier vendredi a indiqué que les affrontements se poursuivaient sans trop de détails. Et puis, collision entre un fourgon de la SSTP chargé de maïs et un wagon ARSS chargé de charbon à la gare de la Société commerciale de transport et de port de Matadi au Congo central. Information contenue dans un communiqué du ministère des Transports et Voies de Communication dont une copie nous est parvenue à Radio Kapi. En attendant les conclusions définitives de l'enquête diligentée pour faire toute la lumière sur cet incident, note le communiqué, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé ce vendredi 8 avril 2022 le traité de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est lors d'un sommet extraordinaire à Nairobi au Kenya. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des chefs d'État de cette communauté, justement. Adhésion de la RDC au sein de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Radio Kapi amorce une série de reportages sur cette thématique. Il s'agit d'analyser cette adhésion en profondeur et de comprendre tous les enjeux autour. Pour ces premiers reportages, Cynthia Bachizi, dites-nous c'est quoi exactement l'EAC et quels sont les effets de l'adhésion de la RDC?
La Communauté des États d'Afrique de l'Est est une organisation régionale créée dans sa forme actuelle au cours de l'année 2000. Elle tire son origine autour d'une union douanière entre l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. La RDC est aujourd'hui le 7e État membre aux côtés du Burundi, du Rwanda et du Soudan du Sud. Cette communauté est notamment dotée d'un marché unique, ce qui facilite le commerce transfrontalier avec la suppression des droits de douane. L'organisation consacre aussi la libre circulation des personnes avec la suppression de l'exigence d'un visa pour des courts séjours aux citoyens des États membres. Somme toute, les avantages sont donc économiques, politiques, mais aussi sécuritaires. Le fait que les États soient liés dans ce bloc régional implique qu'ils ne peuvent pas se déstabiliser mutuellement ou ne peuvent pas en sous-main soutenir des forces négatives qui peuvent déstabiliser un État membre, a précisé le professeur Ngoï Tshibambe, spécialiste en relations internationales. Cynthia Bachizi, Bukavu. Radio Kapi.
Autre nouvelle, la mise à jour des listes électorales telles qu'est prévue par la loi est impérieuse. Elle doit se faire par la création du nouveau fichier électoral qui appelle à la refonte de celui existant. C'est ce qui ressort entre autres de la proposition de loi présentée par la plateforme politique Lamuka. Dans une conférence de presse tenue hier vendredi ici à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi, président sortant de cette plateforme, appelle à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels sans aucun prétexte de glissement. Martin Fayulu Madidi sur des propos recueillis par Paul Matindo.
les élections doivent avoir lieu en 2023. Donc, quand les gens viennent, j'ai vu M. Kadima, voilà les contraintes, entre autres contraintes de finances. Non, vous savez que depuis que nous avons commencé, 2019, il devait être prévu une quotité, quelque part une prévision pour la préparation des élections. 2020, 21, 22, 23... On devait avoir quelqu'un qui a des provisions pour les élections. Que quelqu'un vienne me dire, c'est l'argent. Mais quel argent? Les élections de 2018 ont coûté près d'un milliard. C'est ce qu'on nous a dit. Et en réalité, les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars. C'est ça? Si les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars, nous avons des équipements qui étaient achetés à l'époque. Donc, on peut organiser les élections si et seulement si il y a, je dis, la volonté politique. On ne demande pas aux gens d'avoir la volonté politique s'il y a respect de la Constitution et des lois de la République.
Et puis, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, invite les autorités provinciales du Nord Kivu à interdire l'ouverture des débits de boissons dans les camps militaires ainsi que ceux de la police nationale congolaise. Jean-Claude Katende réagissait ainsi à l'explosion intervenue jeudi dernier dans un débit de boissons situé dans les camps Katindo à Goma. Il appelle les autorités du Nord Kivu à faire preuve de plus de vigilance, surtout dans cette période où la province est sous état de siège. On écoute maître Jean-Claude Katende, joint par Jean-Francis Mouillard.
La ville de Goma ainsi que le Nord Kivu tout entier sont en état de siège. C'est une situation qui demande aux policiers, aux soldats ainsi qu'à tous les services de sécurité d'être prudents. Un débit de boisson ne peut pas se trouver dans un camp militaire. Nous savons qu'un camp militaire ne peut pas être un lieu où on accède n'importe comment. Trouver des choses telles que des marchés et des débits de boissons au sein d'un camp constitue une distraction et l'ennemi peut profiter derrière ça pour accéder ou pour puiser des informations. L'État doit interdire ces choses, même si cela appartient aux policiers ou aux militaires. Mais nous savons également que souvent dans certains camps, ce sont des gens qui proviennent de l'extérieur, ils sont locataires dans des parcelles se trouvant dans les camps et effectuent ce genre d'activité. Ceux-là peuvent donc aussi constituer un canal susceptible d'apporter des incidents.
Pour sa part, le porte-parole de la police nationale congolaise précise que le règlement militaire n'autorise pas l'installation des débits de boissons au sein des camps militaires et policiers. Le commissaire supérieur Piro Mwanamputu a été joint par Babel Pongo Masimango.
En principe, à l'époque, on retrouvait au sein des camps un endroit, une cafétéria, où les policiers ou militaires pouvaient se réfecter après avoir reçu une petite collation. Ils pouvaient y prendre un verre, non pas se saouler. C'était pour ne pas qu'ils sortent du camp pendant les heures de service. Mais de façon formelle, il n'est pas permis qu'un particulier établisse un débit de boisson au sein d'un camp. Dans ce sens-là, les responsables sont invités à éviter à ce que des choses pareilles se retrouvent encore dans des camps.
Notez que Jean-Claude Katende de la ZADO et les commissaires supérieurs Piero Mwanamputu intervenaient hier dans la tranche décrochage Kinshasa en Lingala, consacrée uniquement aux informations de la capitale. Cette tranche est divisée de lundi à vendredi de 16h05 à 17h. Autre nouvelle, le bureau des affaires civiles de la MONUSCO a organisé ce vendredi à Kabasha, dans le territoire de Beni, une session de sensibilisation sur la bonne collaboration entre les autorités de la population et les forces de défense. Le but est de recréer un climat de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour un environnement plus protecteur. Un reportage de Blaise Makassi, rendu par Joël Bofengo.
Cette séance de sensibilisation a réuni des leaders communautaires, des associations féminines, des autorités politiques et militaires, ainsi que des représentants des mouvements de la jeunesse. Au nom de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, le major Chainga a insisté sur le fait que le retour de la paix dans les territoires de Beni passe par la collaboration entre la population qui doit fournir des informations et les forces de défense et de sécurité qui doivent les exploiter pour assurer une meilleure protection. L'officier onusien a rappelé que le premier acteur de la protection des civils, c'est la population elle-même. Pour sa part, Faustin Katembo, le représentant de la jeunesse des Kabacha, a salué le retour de la paix et la reprise des travaux champêtres dans cette zone, tributaire de la production agricole. Il a appelé les jeunes à combattre les fausses informations partagées sur les réseaux sociaux avant de saluer le travail de la MONUSCO. Faustin Katembo a notamment cité le renforcement des capacités des forces de l'ordre, l'appui logistique à l'armée congolaise, la défense des droits de l'homme ainsi que l'appui aux instances judiciaires. Il a également évoqué l'initiative de la mission onusienne de faire participer les jeunes issus des groupes armés dans la construction et la réhabilitation de certaines infrastructures, ce qui les aide à réintégrer socialement et économiquement la communauté.
Justice populaire dans le territoire d'Idiofa en province du Kwilu. Trois maisons incendiées, des bêtes pillées au village Ndungu situé dans le secteur de Kalanganda. Cela s'est passé jeudi dernier dans cette contrée à la suite du décès d'un jeune homme. La nouvelle société civile congolaise qui livre l'information à Radio Kapi précise que ceci est le 10e cas de justice populaire perpétré par la population de son territoire depuis les débuts de cette année. Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure, condamne fermement ces actes qualifiés d'ignobles et appelle les jeunes gens à bannir ce comportement. Il a été joint au téléphone par Irène Mbouma.
Il y a eu le décès d'un garçon qui était un peu malade là. Quand il est mort, ici à Idiofa, on est allé avec les cadavres au village Ndung, dans le secteur Kalanganda. Arrivé là-bas, et les jeunes gens d'Idiofa qui amenaient les cadavres, et ceux de ce village-là, Ndung, se sont mêlés des villages environnants. Ils ont pu incendier trois maisons. La maison de Papa Mpouchi, de Senghor et de son fils Idouba. On l'accuse de sortir, et pourtant ce n'est même pas membre de la famille ou quoi que ce soit. De ces deux enfants, on fait quoi dedans pour aller brûler leur maison? Après avoir brûlé, d'abord le papa a été tapé. Il s'est enfui. La police est loin de là. C'est la dixième fois la justice populaire à Idiofa. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, en principe, cette justice populaire doit s'effacer. Parce que ce n'est pas de cette manière-là que nos jeunes gens doivent agir. À tout moment, s'il y a un mort, on attribue à tel à quelqu'un. Ils ont même pillé des bêtes dans ce village-là. Alors nous sommes en train de condamner ces actes vraiment, ce sont des actes ignobles que nos jeunes gens doivent bannir.
Et puis, dans la province du Maniema, libération de 41 détenus, dont 31 de la prison centrale de Kindu et 10 de la prison de Kasongo dans les territoires portant le même nom jeudi dernier. Devant les autorités provinciales, le procureur général près la cour d'appel du Maniema a parlé de la grâce présidentielle dont ont bénéficié ses compatriotes congolais. Le gouverneur intérimaire de son côté a invité ses bénéficiaires de cette grâce présidentielle à une prise de conscience et à ne pas reprendre les mêmes erreurs de peur qu'ils ne soient encore arrêtés. Albert Kachamadi Bitekéta explique dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La commission chargée de l'exécution de l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2021, prise par le chef de l'État portant mesure collective de grâce présidentielle, avait recensé 41 condamnés à une peine devenue définitive, peine de servitude pénale principale. Et nous avons pris tout le temps qu'il fallait pour que personne ne soit abandonné, surtout pour ne pas commettre l'erreur pour les condamnés d'habitude. Alors, on a fait circuler les listes à tout le monde, parce qu'à chaque fois qu'on a exécuté ces mesures, on nous dit qu'on a libéré les bandits armés qui insécurisent la population. Et c'était 41 que nous avons repérés, dont 31 dans la prison centrale de Kindu et 10 dans les territoires de Kasongo. Donc nous avons invité tous les membres du conseil de sécurité, les gouverneurs lui-même et les députés pour qu'ils puissent assister et après avoir tous vérifié la pertinence et l'exactitude des personnes qui pouvaient bénéficier de ces mesures, nous avons procédé à leur libération.
Et puis, installation jeudi dernier par le maire de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga du tout premier conseil urbain de la jeunesse. À cette occasion, le président de cette structure d'encadrement de la jeunesse s'engage entre autres à la promotion du vivre ensemble et à la lutte contre les tribalismes et autres antivaleurs qui freinent le développement de cette ville frontalière. On écoute Jean-Luc Kayamba, joint par Jean Ngandou.
Nous vivons dans un contexte de mépris entre les communautés, une situation qui constitue un danger et un sous-développement pour la ville. de Kasumbalesa. Vous le savez, il y a des tribalismes qui frappent et qui divisent la jeunesse, et il y a également le manque d'emploi, et la plupart des jeunes s'adonnent à des pratiques anti-valeurs pour trouver le pain quotidien. C'est notamment aller faire passer la marchandise par les champs, une contrebande pourtant que nous condamnons tous. Nous mettrons à profit notre mandat à l'unité intercommunautaire, le vivre ensemble. Et donc je pense que aujourd'hui nous allons nous investir sur cette question pour demander aux autorités de notre pays à créer beaucoup d'emplois afin que des jeunes nombreux que nous sommes dans la ville de Kasumbalesa, nous trouvons une occupation. Donc je pense que nous allons plus œuvrer pour la paix et soutenir les autorités locales afin de lutter contre l'insécurité, le tribalisme.
Actualité internationale.
Et puis, à la suite de la signature dimanche 3 avril d'un compromis sur la formation d'un commandement unifié pour diriger la future armée du Soudan du Sud, les nominations seraient imminentes. C'est ce qu'ont annoncé les représentants des états-majors du gouvernement et de l'opposition lors d'une conférence de presse conjointe à Djouba. L'occasion de souligner le retour de l'opposition au sein de mécanismes et de mise en œuvre de l'accord de paix qu'elle boycottait depuis mi-mars. Et puis, l'Arabie Saoudite a annoncé ce samedi 9 avril qu'elle allait autoriser 1 million de musulmans saoudiens ou venant du monde entier à participer cette année au pèlerinage du Hajj, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes marquées par l'épidémie de Covid-19. Autre nouvelle, après la confirmation de l'entrée des Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis, de nombreuses associations de défense des droits civiques se sont donné rendez-vous devant le siège de la plus haute instance judiciaire américaine ce vendredi pour marquer ce moment historique.
L'invité.
Le gouvernement des États-Unis est engagé auprès de la RDC pour lutter contre les trafics illicites des minerais. C'est là dans le cadre du partenariat privilégié entre les deux pays. C'est à ce titre que le gouvernement américain finance des projets pour la bonne gouvernance dans le secteur minier. Patrick Pratt, chef adjoint de l'unité de l'Est au sein de l'ambassade des États-Unis en RDC, est notre invité dans cette édition. Il s'entretient à ce sujet avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Patrick Pratt, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi les États-Unis tiennent vraiment à lutter contre le trafic illicite des minerais dans la région ici?
Oui, bien sûr. En fait, ce projet de soutien pour la police de mines et d'hydrocarbures est dans deux cadres. Le partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour renforcer les institutions pour servir le peuple congolais. Deuxièmement, les ressources naturelles et le trafic illicite des minerais sont à la base de plusieurs conflits à l'est du pays. Et aussi, deuxièmement, les minerais de la République démocratique du Congo doivent être utilisés pour le développement du pays, pour le bien-être des peuples congolais. Mais à cause du trafic illicite des minerais, ça n'est pas encore arrivé à l'est du pays. Alors, notre intérêt est de soutenir la police minière congolaise pour lutter contre le trafic illicite, afin que le peuple congolais puisse tirer profit.
Qu'est-ce que vous attendez de la police des mines et hydrocarbures au niveau des sites miniers? Quel comportement exemplaire est-ce que vous attendez?
Oui, je pense que la première chose est qu'ils sont là pour surveiller les sites miniers, pour prévenir les gens qui n'ont pas le droit d'être dans les sites miniers, pour vérifier que les miniers sont des sites vérifiés dans le cadre du code minier de la République démocratique du Congo. C'est très important parce que, comme vous le savez, il y a des minerais qui sont exploités sans autorisation, sans les documents et sans autorisation de l'État congolais.
Ce n'est pas la première formation type organisée et financée par les États-Unis. Comment expliquer que la population ou même l'opinion a tendance à croire que ces genres de formations ne changent pas tellement la situation sur terrain, autour et dans les sites miniers?
Oui, en fait, c'est la deuxième phase de cette formation de police minière au nord de Kivu et dans la province de Sud Kivu. On ne peut pas attendre les résultats immédiats, bien sûr, parce que pour construire les institutions, pour pour bien former la police sur le trafic minier. Ça va prendre du temps. On ne peut pas attendre des résultats immédiats. Mais je pense dans le moyen et long terme, on espère que les résultats montrent la preuve de cette formation parce que les peuples congolais doivent être tirés profit de ces richesses naturelles.
Pour terminer, le commissaire général adjoint de la police a fait un plaidoyer pour que les États-Unis soutiennent aussi ce genre de formation dans d'autres régions minières de la RDC. Quelle est votre réponse?
Oui, en fait, j'ai entendu dire qu'il y a des discussions, mais ce n'est pas encore finalisé. Je pense que ces deux projets dans les deux provinces du nord et du sud Kivu, s'ils peuvent montrer les bons résultats, peut-être on peut répliquer dans différentes provinces. Mais ce n'est pas encore décidé, mais les discussions continuent.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangasa, coordonnée par Pierrot Elameji sous la supervision d'Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.